carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, l'Académie des Beaux-Arts a proposé une journée Debussy le 24 octobre 2012 en commémoration du 150e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur, mort trop jeune avant d'avoir pu être élu membre de cette Académie. Plusieurs intervenants parmi les meilleurs connaisseurs ont été invités par le président de l'année, François-Bernard Michel. La journée était animée par le musicologue Gilles Cantagrel. Dans l'émission que vous avez choisie, vous allez entendre une courte introduction d'abord de Gilles Cantagrel, puis l'intervention du chef d'orchestre et compositeur Laurent Petit-Girard, membre de l'Académie des Beaux-Arts, intervention qu'il a tout simplement intitulée « L'orchestre de Debussy ».
Eh bien, vous connaissez un certain nombre d'histoires drôles qui commencent par « J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise, par laquelle dois-je commencer ?» Je me trouve actuellement également dans cette situation pénible. Et je vais commencer par la mauvaise. Nous comptons sur Jean-Michel, nous comptions même sur Jean-Michel Nectou qui a envoyé tous ses documents. Étonné de ne pas le voir dès ce matin, j'ai pu le joindre au téléphone à midi et il est à l'hôpital. Et il le regrette infiniment et nous au moins autant que lui. Bon, c'est ainsi. Je rends hommage quand même, comme je souhaitais le faire, à la splendide exposition que je pense vous avez tous, j'espère, vue au musée de l'Orangerie sur Debussy et les arts de son époque, qui nous a appris tant de choses, notamment ses connexions avec les symbolistes, avec Mallarmé, avec un certain nombre d'intellectuels, et non pas seulement Claude Monet, excusez-moi Sylvie, mais vous le savez mieux que moi. Donc il va falloir, hélas, se passer de la prestation très attendue de Jean-Michel. Donc nous décalons, si vous voulez bien, l'ensemble des interventions, avec Laurent Petit-Girard d'abord, sur l'orchestre de Debussy, ensuite Michael Lavinas, sur Pelléas en particulier, et pour, non pas pour terminer, comme je le souhaitais, avec François-Bernard Mache sur la nature chez Debussy, un magnifique sujet. Mais en lieu et place, si j'ose dire, de cette première communication, je vous suggère que nous ayons un échange avec les intervenants de ce matin, auxquels se joignent Annick de Vries-Lesure et Brigitte François Sapé, qui connaissent Debussy extrêmement bien et pour cause, et de telle façon qu'ils dialoguent les uns avec les autres et qu'ils puissent répondre à vos questions, si cela vous agrée. Alors, nous allons commencer avec l'intervention de Laurent. Mon cher Laurent, au lendemain de la création de Pelléas, pour lequel vous n'avez pas une tendresse particulière, mais ça, vous n'êtes pas le seul. Camille Bellègue, ancien condisciple de Debussy au conservatoire, pourtant, devait publier un article critique assassin dans le Figaro avec ces mots « La musique de Monsieur Debussy ne fait pas beaucoup de bruit, mais un vilain petit bruit ». Alors peut-être, en effet, dans le goût de l'époque, on peut l'imaginer, mais encore. Alors, dès le prélude à l'après-midi d'un faune, l'instrumentation de Debussy montre une originalité foncière. C'est génial, sur le plan de l'orchestre. La question de l'orchestre de Debussy est d'autant plus importante à mesure que lorsque pressé par des soucis d'argent dans la deuxième moitié de sa vie, il a été obligé d'accepter de diriger ses œuvres dans plusieurs pays d'Europe. Il se révéla, selon les témoignages, un très médiocre chef d'orchestre de ses propres œuvres. Alors, Laurent Petit-Girard, qui est un familier de l'œuvre de Debussy, vous avez compositeur, chef d'orchestre, patron de l'orchestre Colonne, entre autres choses, je résume, mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est que vous avez dirigé des œuvres orchestrales de Debussy, vous les dirigez actuellement, et même je crois cette semaine, et donc vous connaissez de l'intérieur l'orchestre de Debussy, donc à vous de nous éclairer peut-être, pourquoi pas, de répondre à Camille Bellègue.
Eh bien alors écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, pour ce critique, vous savez, on peut faire le pendant avec celui qui, le jour de la création de Daphnis, avait dit que on entend un vague ululement de cœur en coulisses et que Monsieur Ravel sera jamais Debussy. Et lorsque j'ai eu la dernière fois l'occasion de diriger Daphnis intégrale, j'avais fait mettre dans le programme une paf qui s'appelait Le coin des visionnaires, où j'avais mis quelques critiques assassines comme ça pour montrer. Et heureusement, il y en avait en même temps des bonnes, puisque c'est trop facile de ne mettre en exergue que ceux qui se trompent. Ce qui est très passionnant pour moi dans le fait de diriger Debussy, j'ai envie plus de vous parler de diriger Debussy que de son orchestration, d'abord parce qu'on la connaît bien et les deux se rejoignent par moments, ça pose des problématiques différentes. D'abord, il y a le fait qu'il y a une notion du temps qui est extrêmement différente suivant les œuvres. Et l'exemple le plus saisissant étant évidemment le prélude de l'après-midi d'un faune, dont on pourra regarder juste après, à la fin de mon exposé, mais dans lequel il peut y avoir autant, presque autant de tempo qu'on l'imagine, à ceci près qu'on se dit qu'il y a aussi le ballet derrière. Et que je sais par exemple que le film que je vais vous montrer a 20 ans, et que aujourd'hui, lorsque je dirige cette œuvre, je la dirige à Séoul dans 10 jours, j'ai tendance à les moments agités, à les penser plus dynamiques de par cette idée du ballet. Mais il y a quand même cette sensation que vous êtes dans une musique dans laquelle vous pourriez ne pas battre la mesure, dans laquelle la notion de barre de mesure a disparu. Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous prenez le prélude à l'après-midi d'un faune et que vous ouvrez la première pave, vous avez écrit très modéré pour la flûte. Et les seules indications de tempo que vous allez trouver ensuite se retrouvent toujours en animant, même mouvement et très soutenu, puis retour au mouvement précédent. Quand vous prenez les trois nocturnes, magnifique œuvre, dont le, d'ailleurs vous vous rappelez, Pierre Boulez disait que le solo du cor anglais était un miroir de Tristan, eh bien, vous allez voir, nuave, on écrit modéré, puis plus lent, puis encore plus lent, et puis fête, animé et très rythmé, etc. Par contre, quand vous prenez la mer, vous ouvrez la mer, premier mouvement, très lent, noir à 116. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que dans un certain sens, noir à 116, c'est antinomique avec l'idée de très lent. Pourquoi ? Parce que ça commence par un 6-4, une simple tenue de contrebasse, et vous allez avoir les harpes en écho, et que finalement, le chef le bat pas comme ça, mais que quelque part, il donne à peine les pulses, et que finalement, il bat presque un deux temps, qui lui, alors, est extrêmement lent. Et ensuite, dans chaque mouvement, vous allez avoir les mouvements métronomiques indiqués dans la mer, qui ne sont pas du tout dans les deux autres œuvres. À mon sens, c'est pas du tout un hasard. C'est qu'il y a vraiment, dans l'œuvre de Debussy, un certain nombre de, dans des œuvres d'orchestre comme ça, où l'attitude, une forme de l'attitude est donnée à l'interprète qui n'est pas la même suivant les œuvres. Alors, la chose qui est très passionnante d'un point de vue direction d'orchestre, si on prend des œuvres, comme, bien sûr, on ne va pas parler des danses pour harpe, où là c'est un simple orchestre à cordes, mais si on prend par exemple trois œuvres majeures comme le prélude d'un faune, les nocturnes de la mer, et aussi évidemment Ibéria d'autres, mais c'est de voir à quel point le travail est différent suivant les orchestres. Et là vraiment il y a une notion de culture générale de musiciens sans même qu'ils s'en rendent compte. Un orchestre français, ils sont comme Obélix, ils sont tombés dans la potion magique Ravel Debussy sans même le savoir. Et donc, il y a tout un ensemble de choses que vous n'avez pas besoin de dire, qui sont une évidence que vous avez presque oubliée. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez à l'étranger, devant des musiciens qui sont parfois excellents, des très bons orchestres, et vous vous retrouvez tout d'un coup à être obligé de préciser des choses que vous avez complètement oublié de préciser avec votre orchestre parce que vous avez l'habitude. Alors en plus, quand on est un chef d'orchestre compositeur français comme moi, Debussy, Ravel, on vous le demande tout le temps, bien évidemment. Alors, ce qui est très passionnant, c'est de voir qu'est-ce qui, dans l'orchestre et dans la façon de travailler, même dans la façon de l'approche des musiciens, va nous obliger à travailler d'une façon différente. Par exemple, si on prend le prélude à l'après-midi d'un faune, je le dirige donc le 8 novembre à Séoul. Ça fait 15 jours que j'ai envoyé un courriel à la direction de l'orchestre pour leur dire « Faites attention, je demande aux flûtes, aux flûtistes, de faire toute la première phrase sans respirer. » Ce qui, évidemment, les rend dingues la plupart du temps. Alors, parce que, en fait, il y a plusieurs possibilités. « Do, si, si, la, si, si, la, si, si, do, ré, sol, mi, sol, si, si, do, la. » Ça, c'est vraiment triste. Il y a déjà mieux... Do, si, la, si, do, si, la, si, do, ré, sa, mi, sa, si, si, do, la, ça c'est déjà mieux. Et puis il y a évidemment le rêve, do, si, la, si, do, ré, sa, mi, sa, si, si, do, la. Sans pour autant tomber devant quelqu'un qui est tout fier de vous montrer qu'il sait faire la double respiration, parce qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça s'entend, et on a l'impression d'entendre un prélude à l'après-midi d'un faune sous respirateur artificiel. C'est pas ce qu'on veut. Bon. Et ça, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est qu'à partir du moment où on obtient ça, d'un flûtiste, il n'a pas d'autre choix. J'avais posé la question à Michel Debosse. Je lui avais dit, écoute Michel, moi j'ai vraiment envie de demander ça aux flûtistes. Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise, techniquement, pour qu'ils puissent me faire ça? Il m'a dit, oh c'est très simple, tu leur dis de prendre énormément d'air et de pas souffler du tout. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette phrase, piano, doux et expressif, là, je vais la faire dans une salle de 2500 places. Eh bien, les flûtistes,
les chefs, même de temps en temps, ont peur d'aller vraiment dans la nuance. On commence, en plus, souvent, le prélude à la première fois, on commence un concert par ça. Vous imaginez, les gens en train de tousser, l'orchestre s'est accordé, tout, etc. Vous arrivez, tété, salut, merci, c'est moi, tout le monde applaudit, bravo. Il y a un moment de silence, et puis vous allez commencer avec un do dièse de rien pratiquement à la flûte. Le danger, les gens ne se rendent même pas compte que c'est commencé. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le chef est obligé de faire un tout petit peu de sinoche, un rien, pour attirer la concentration. Donc vous ne pouvez pas attaquer le prélude de l'après-midi d'un faune aussi vite que vous allez attaquer une autre œuvre du répertoire. Parce qu'il faut laisser le moment de silence se créer. Ce qui est exactement l'inverse avec Tzigane de Ravel, où tous les violonistes m'expliquent qu'ils arrivent et à peine ils se sont arrivent au centre, qu'ils attaquent la cadence tout de suite pour saisir les gens. Et la deuxième chose, c'est que si vous obtenez vraiment d'être dans le piano qu'il faut avoir, vous obligez tout le public à faire ça. Et à partir de ce moment-là, le miracle peut commencer à se produire. Ça, c'est pour moi, un des éléments clés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va changer dans l'approche des musiciens, même dans leur façon de jouer, dans l'énergie, dans la longueur des affaires. Une des grandes difficultés, c'est d'obtenir ces blancs. C'est pas qu'on joue sans vibrato, c'est qu'on joue avec un vibrato extrêmement retenu. Et le problème aussi dans la musique française, c'est que vous forcez des musiciens, et notamment à l'étranger, qui sont pas habitués à jouer extrêmement pianissimo, à ce moment-là, ils ne savent plus jouer expressif. À partir du moment où on leur demande de se faire peur. Autrement dit, c'est une musique, faut pas la jouer là, faut la jouer là, en risquant de se casser la figure, mais en ayant ce côté-là suffisamment solide pour ne pas se casser la figure. Alors, vous avez chez Debussy des choses très étonnantes. Par exemple, je suis pas certain que mes collègues le sachent tous, mes confrères de... Mais quand vous prenez De l'aube à midi sur la mer, et que vous êtes, comme disait Charles Munch, à midi moins de quart, hein, c'est ça, bon. C'est-à-dire... 11h moins de quart. C'est-à-dire le fameux passage des violoncelles. Divisé en quatre parties. Eh bien, il y a écrit sur la partition, et je l'ai ici, j'ai un témoin, 16 violoncelles de la main de Debussy. Ce qui est, c'est énorme. Si on voulait être logique, quand on a 16 violoncelles, ça veut dire qu'on a 14 contrebasses, 18 altos, 20 violons, 22 premiers violons, vous ne tenez pas sur les salles de concert. Et puis, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous seriez obligé de doubler. Donc, moi, j'y vois plus une sorte de signal d'intention. Maintenant, il est possible que certains chefs d'orchestre, au moment d'un enregistrement, simplement pour ce passage, et bibre. 16 violoncelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 parties à 4. Or, finalement, c'est pas forcément 4 violoncelles ce qui sonne le mieux par partie. Et il se trouve que, là, samedi, je vais diriger un concert un peu spécial, puisque c'est l'orchestre de la Philharmonie de Bakou qui vient, qui est un très bon orchestre que j'ai dirigé, et on va faire un concert à 2 orchestres avec l'orchestre Colonne. Et donc, il joue de la musique classique d'Azerbaïdjan avec un chef dans la première partie. Dans la deuxième partie, je vais diriger La Mer, notamment. Et alors là, du coup, on est quand même 18 premiers, c'est-à-dire 16 secondes, 14 altos, donc 12 violoncelles. C'est la première fois que je vais diriger La Mer avec autant de violoncelles. Je dois avouer que je m'en réjouis, car à 3 parties 12, et non pas à 2 par partie comme on serait à 8, on va avoir un phénomène acoustique beaucoup plus intéressant. Vous savez que 3 instruments à cordes à l'unisson, ça sonne mieux que 2, et ça sonne même souvent mieux que 4. Alors ça fait partie des choses qui nous posent problème, et en tout cas qui nous interrogent, qui nous demandent de chercher des solutions. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir... Au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la musique de Debussy, et notamment dans une œuvre comme le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est que l'orchestre ne peut pas la jouer s'il n'a pas compris. Vous avez un certain nombre d'œuvres dans lesquelles la métrique est suffisamment claire, les traits sont clairs, même s'ils ne sont pas vraiment dedans, ça va, je dirais, presque sonner malgré eux, parce que l'œuvre est conçue de cette façon. Ce qui est passionnant chez Debussy, c'est que vous avez une musique qui impose aux musiciens en permanence de s'écouter les uns les autres. Sans quoi, vous me direz, c'est le cas, normalement, ça devrait être le cas de toutes les musiques, mais chez Debussy, si vous ne faites pas ça, et notamment dans une œuvre comme le prélude à l'après-midi d'un faune, vous allez dans le mur. Le prélude à l'après-midi d'un faune est l'œuvre dans laquelle j'ai entendu, je ne sais pas si mes confrères ont les mêmes expériences que moi, mais le plus de catastrophes à l'orchestre. Alors quand je dis de catastrophes, catastrophe dont la plupart du public n'entend pas, mais nous, musiciens, qui connaissons la partition par cœur, on s'aperçoit que tout d'un coup, le corps est rentré trop tôt, que les sons décalés, qu'ils ne sont pas ensemble. Bon. Alors, vous avez par exemple, dans cette partition, lorsque tout d'un coup, au milieu, le thème va être repris par les cordes, ce qui est absolument extraordinaire, c'est lorsqu'on a ce thème qui revient, la famille Ré, c'est le grand thème, c'est qu'il a écrit des triolets aux flûtes, aux clarinettes, mais des triolets par formule de deux à l'intérieur des trois. Donc on entend pi dom ti dom ti dom pi dom pi dom. Bon, très bien. Et j'ai vu des jeunes chefs venir me voir et me dire comment est-ce que vous dirigez ça? Et j'ai répondu, mais je l'ai jamais dirigé de ma vie, je le dirige pas. Je dirige pas. Vous avez remarqué qu'à ce moment-là, il y a la famille. Vous dirigez ça. Et les autres, ils ont qu'à écouter. Puis, padam, ti, dam, ti, dam. Ça va se passer. Et plus vous allez leur donner les temps, c'est-à-dire plus de temps en temps, vous allez accentuer le temps faible, puisqu'une fois sur deux, c'est le temps faible, plus vous allez les gêner et vous allez aller nulle part. Et ça, ça fait partie. Alors, ce qui me fascine aussi chez Debussy, c'est ce que permet cette musique en matière d'interprétation. Ça peut aller très loin. Vous savez, par exemple, dans le prélude à l'après-midi d'un faune, que je vais vous faire écouter en conclusion, même si vous ne moquez pas trop parce que le film a 20 ans, il y a un peu moins de bide et peut-être pas encore beaucoup plus de cheveux, mais à peine. Et c'est que vous avez à un moment donné, dans l'exposition du thème, des sextuelets qui, moi, m'ont toujours gêné. C'est-à-dire, si, ré, ré, do, do, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do. Et ça, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do. Et j'ai toujours éprouvé le besoin de demander aux musiciens de faire la première note du sextuelet légèrement plus longue et plus vibrée. Et donc d'avoir do, do, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do, si, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do. Bon, quand vous demandez quelque chose comme ça, la première chose qui est passionnante, c'est que lorsque le thème est repris à d'autres instruments, c'est de voir s'ils ont écouté, si naturellement ils font la même chose ou s'ils jouent tout droit. Rien qu'à ça, vous avez un élément sur la qualité d'écoute de l'orchestre et la qualité d'écoute des musiciens. L'autre chose aussi qui est merveilleuse, alors là, c'est, pour moi, ce DVD que vous allez voir, il est à la fois émouvant, parce que c'était un très bel orchestre, l'Orchestre Symphonique Français, un flûtiste génial qui s'appelle Jean Ferrandis, qui maintenant est professeur à Los Angeles et qui fait une très belle carrière de soliste, mais aux joies absolues, j'ai une collection de cymbales antiques. Et donc, vous savez que Debussy utilise les cymbales antiques, qui sont en fait l'instrument de prière tibétain. C'est des deux petites cymbales comme ça. Et j'avais la très belle collection, et le jour de l'enregistrement, je les ai oubliées à la maison, et ce qui fait qu'on a dû faire le mi et le si à la fin sur un glockenspiel. J'ai dit surtout, le montrez pas. J'étais vert de honte. Parce que cette idée, alors c'est un gros intérêt quand on peut avoir les deux cymbales, c'est qu'on prend, je demande d'avoir deux percussionnistes et pas un seul, et qu'évidemment, on fait une sensation de géométrie. Se pose aussi une autre question dans cette musique, qui est, et je dois avouer que je suis pas d'accord, là, comme pour Ravel, quand je vois l'Orchestre de Paris, ou la plupart des formes, beaucoup de formations françaises, qui mettent les altos à droite et les violoncelles au milieu. Pour Brahms, évidemment, je comprends tout à fait. Mais pour Debussy et pour Ravel, où il y a une spatialisation du son, lorsque vous avez, par exemple, le début dans Daphnis, dans la deuxième suite, et que vous avez qui passe des violoncelles aux contrebasses, violoncelles aux altos, qui tournent comme ça, quand j'entends en concert le son qui commence là, qui va là, qui va là, je pense que la notion d'écriture par rapport à l'espace, doit être quelque chose qu'on garde avec beaucoup d'attention et se dire que ces compositeurs dont on parle avaient une géométrie sonore qui correspondait à cette époque-là avec un orchestre tel qu'on le pratique. Ce qui est tout à fait différent pour Brahms à Vienne ou autre où c'était pensé d'une autre façon. Donc, tout le travail, si vous voulez, pour moi, par rapport à Debussy, évidemment, la mer, c'est plus flamboyant, mais je trouve que le prélude après-midi d'un faune, c'est le meilleur exemple parce que c'est la musique de Debussy à l'orchestre qui finalement est la plus proche de l'atmosphère, pour moi, des préludes pour piano, qui sont la référence absolue, pour moi, en matière de révolution de la conception de la musique. Et cette notion que, tout d'un coup, la métrique, dans son acception telle que nous la pratiquons, a disparu, qu'on peut avoir une grande liberté, donc une grande liberté de gestique. Je n'ai jamais dirigé, évidemment, le solo. Je vois des chefs qui dirigent le solo de flûte du début. Enfin, on parle avec le flûtiste, mais c'est un moment merveilleux, de passage, de relais. Alors, ce que je vais vous montrer là, pour illustrer, c'est, donc ça dure 10 minutes, c'est le prélude d'après-midi d'un faune. On est donc en 1992, c'est un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Symphonique Français, qui est un orchestre qui a duré pendant 8 ans, qui était un orchestre qui avait à temps plein, mais privé, ça a été une expérience assez extraordinaire, grâce à la générosité d'un couple merveilleux, auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui, qui étaient Sylvie et Éric Boissonnat, qui ont été des merveilleux mécènes, et pour l'art et pour la musique, et qui nous ont permis d'avoir et cet orchestre et le Festival de Flaine. Quand on parle de mécénat, on parle de gens qui, en m'interdisant de le dire, je peux en parler maintenant qu'ils ne sont plus là, ont quand même sur une période de 12 ans donné 30 millions d'euros, c'est-à-dire une générosité absolue pour aider toutes sortes de musiques et de projets. Et il y avait dans cet orchestre, dont à peu près Les deux tiers sont maintenant membres de l'Opéra, du National, du Philharmonique, que je les retrouve, et quelques-uns que j'ai retrouvés dans l'Orchestre Colonne. Il y avait une ferveur, on est allé aux États-Unis, on a joué le Gaspard de la Nuit de Marius Constant, que j'ai créé avec cet orchestre, et puis le Faune et beaucoup d'autres choses. Et c'était juste au retour des États-Unis que nous avons fait ce film dans le studio de la SFP, donc ce qui est une atmosphère un peu particulière, notamment au point de vue acoustique, mais enregistré comme en concert, d'une traite. Et vous allez voir ce que je veux dire. Je crois que, par exemple, Jean Ferrandis, que vous allez entendre au début, représente pour moi l'absolu idéal de ce que j'ai envie d'entendre dans ce solo de flûte. Voilà. Donc, c'est le prélude à l'après-midi d'un fou.
Pour moi, d'abord, ce qui est émouvant quand je vois cet orchestre, c'est, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le deuxième flûte, c'est François-Xavier Roth, qui est devenu un de nos excellents chefs d'orchestre et qui a commencé la direction d'orchestre, puisque quand j'avais cet orchestre, je souhaitais qu'à la fin de chaque répétition, chaque musicien de l'orchestre prenne la baguette pendant un moment, parce que je me suis dit, comme ils vont voir que ce n'est pas facile, ils seront plus gentils avec moi après. Et le clarinet de solo, c'est Eo, Florent Eo, qui maintenant fait une carrière absolument merveilleuse. Le hautbois solo, c'est Gilles Silvestrini, qui est un excellent compositeur, que j'aime beaucoup. Et le violon solo, ben maintenant, et violon solo de colonne, je l'ai retrouvé avec le plus grand plaisir. En revoyant ça, vous voyez, vous avez chez Debussy plein de moments, de questions qui se posent, de savoir qu'est-ce que vous battez. D'abord, quand je revois ce film, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qu'à 20 ans, je le trouve un peu trop exatique. C'est-à-dire, je me dis que c'est quand même un ballet, qu'il y a des moments que maintenant, j'aurais envie de contraster un peu plus. Bon. Vous avez aussi ce phénomène très intéressant quand on voit, par exemple, à la fin, les harpes sont en duolet, alors qu'on est à 12-8. Et donc, se pose la question, toujours, est-ce que vous battez ce qu'elle joue, ou est-ce que vous battez le rythme? Et j'ai essayé les deux. Je fais de leur battre, pim, tim, pom, pom. Mais je me suis rendu compte que de leur proposer pim, pom, pim, pom, c'est beaucoup plus dangereux. Elles ont la trouille, elles jouent mieux, parce qu'elles sont absolument concentrées et j'ai pas cette deuxième et quatrième croche avec des accents comme ça. Et de le fait de leur faire sentir que c'est pom, pom, ça change absolument tout. Alors, vous avez toujours ces balancements dans Debussy qui sont passionnant. Vous me direz, beaucoup des choses que j'ai dites se retrouvent dans une grande partie de la musique, notamment de la musique française. Mais c'est quand même, pour moi, cette distanciation avec la pulse, avec le temps, c'est quelque chose d'unique à Debussy et qui, je dois avouer en plus, en tant que compositeur, m'a fasciné. Voilà.
Merci Laurent, je crois que c'était très clair. D'abord, on a entendu de la musique, on n'a pas entendu ce matin, mais on a l'occasion de l'entendre. Cette œuvre-là est dans toutes les mémoires, bien sûr, on l'a entendu tant et tant de fois au concert, avec de nombreux flûtistes, de nombreux chefs, bien sûr, nous avons les références dans nos têtes, mais surtout, après tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était tellement clair, ce côté extatique. Du solo de flûte sans respirer, pianissimo.
Il est magnifique.
C'est magnifique. Oui, c'est, bon. Et ça, on l'entend très rarement, comme ça.
Oui, je dois vous avouer que, depuis que je dirige ça, il y a deux flûtistes qui me l'ont fait vraiment comme je le souhaitais.
Canal Académie vous propose la retransmission intégrale de cette journée de Bussy à l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez écouter librement les autres interventions en tapant le nom de Bussy dans le moteur de recherche sur notre page d'accueil en haut et à droite. Merci de votre écoute.